Valéric a ouvert la porte et les fenêtres, poussé les meubles, étendu les draps, les nappes et les rideaux. Les derniers rayons du soleil pénètrent dans la case et transforment la poussière en galaxie d'étoiles. Grand ménage. Il lui reste peu de temps, à peine 4 heures. 4 heures alors qu'il n'a tout pas touché à un balai ou à un chiffon depuis un mois. Il a habité dans la case de la rue du Bois Malais, comme dans un mausolée, sans rien toucher. Un étranger est entré par réfraction dans un temple sacré. La présence de sa mère partout, la sienne nulle part. Le commandant reste quelques secondes à admirer la mer, la plage Malandure, les kayaks qui reviennent de la réserve Cousteau, puis d'un pirageur met en marche l'aspirateur. Aspirer les galaxies d'étoiles laisse l'aide à penser, tout comme rechercher sous les meubles de nouvelles voies lactées ou de simples toiles d'araignée lui permet de réfléchir en toute sérénité. Il a repassé des dizaines de fois les images de l'incendie de l'habitation Wagram il y a 21 ans, réécouté les cris de la petite Origane, les autres témoins, Jacob, Jeannette, Audrey et Ludovic, Charma et son père, mais ne se sont jamais manifestés. Il a essayé de se souvenir de chacune de ses décisions, de minuter chacune de ses réactions. Aurait-il pu agir autrement? Sauver Marcel et Marité Pigeon? Non. Tous ceux qu'il a interrogés, gendarmes, médecins, pompiers, l'ont rassuré qu'il ait été sous. Et ce jour d'astreinte n'a rien changé. Et c'est précisément pour cela que tous l'ont couvert. Parce que Valéric était un bon flic, et ça ne lui était jamais arrivé, ni avant ni après, et que même avec ses 2 grammes d'alcool dans le sang, il a assuré. Comment aurait-il pu prévoir l'engrenage infernal que ce secret déclencherait? Valéric avale une nouvelle pluie d'étoiles. Petit à petit, la case reprend vie. Il a décidé de chasser les fantômes, ou de du moins de cohabiter avec eux. Il n'a pas jeté à la poubelle les souvenirs de sa mère, les photos, les paniers, les moulins à café, mais il les range. Et avec le reste, il s'arrange. Il observe avec fierté le bouquet d'oiseaux de paradis posé sur la table et la corbeille de fruits frais à côté de l'évier. Des couleurs comme le gris. Des saveurs comme contre l'ennui, des odeurs pour effacer le parfum de mort, une case accueillante, aux teintes exotiques, presque romantiques, tout l'inverse de la tanière d'un vieux raccoon solitaire. Ce soir, il reçoit ses 2 enfants, Rose et Gabin, atterrissent à Pointe-à-Pitre par le vol de 22 heures. Ils vont enfin découvrir la Guadeloupe. Depuis leur enfance en Normandie, ils se sont tellement questionnés sur cette île, sur leurs racines, sans jamais rien oser demander, en se contentant du coin du voile que leur père avait levé. Il avait quitté la Guadeloupe avant leur naissance. Sa famille et lui étaient fâchés. Peut-être Valéric leur parlera-t-il maintenant. Rose et Gabin ont 18 ans et 20 ans. Pourquoi mentir aux enfants quand ils sont grands? Valéric s'attaque à une pile de livres, des manuels de cuisine, des recueils de poésie créole, des catalogues de cartes postales anciennes. Les dépoussière et d'abord les ranger dans la chambre. Ensuite, il saisit le premier. Un épais album de photos et une pluie de papier tombe à ses pieds. Des articles de journaux. Valéric s'accroupit, surpris. Les articles tiennent parfois sur une page entière, mais se réduisent le plus souvent à des entrefilets. Il y en a une trentaine, Tous ont été minutieusement découpés. Le policier en saisit une. Manque de tomber à la renverse. Les informations diepoises, 20 mai 2008. Coup de filet sur le port de commerce. La brigade judiciaire de Dieppe, dirigée par le commandant Valéry Cancel, a démantelé un important trafic de stupéfiants impliquant aussi bien des transporteurs que des employés. Et Valéry ramasse tous les articles qui lui tombent sous la main. Les survole, il en connaît déjà le contenu. L'arrestation d'un forcené à Arc, la bataille, une série de cambriolages à Luneray, le déminage d'un obus de la Seconde Guerre mondiale à Criette-sur-Mer. Une série de faits divers, d'affaires dont il a eu la responsabilité. Son nom est apparu souvent dans la presse normande à 20 ans. À partir d'une simple recherche sur Internet, il n'était pas difficile de les retrouver, de les imprimer, mais sa mère n'avait pas d'ordinateur. Elle ignorait tout d'Internet. Elle n'a jamais quitté son île, n'a jamais lu les journaux. Par quel miracle pouvait-elle s'intéresser aux informations diepoises ou aux courriers cauchois? Par quel tour de magie a-t-elle pu récupérer ces articles et pourquoi collectionner tous ceux qui parlaient de lui? Il continue machinalement de les ramasser. Parce qu'elle t'aimait, répond une voix dans son dos. Une voix qui semble avoir lu dans ses pensées. Parce qu'elle était fière de toi, insiste la voix. Madou. Madou qui entre. Comme si la porte n'avait été laissée ouverte que pour elle. Madou qui jette un regard intrigué sur le vase fleuri et les fruits. J'appréciais beaucoup ta mère. Elle était seule. Elle s'ennuyait, elle buvait. Quand je le pouvais, je l'aidais. Tout le monde s'entraide ici. Tu le sais, elle m'a raconté son histoire un soir. Son mari, en prison, son fils unique, parti en métropole. Il lui était impossible de pardonner sa trahison, même si, dans le secret de son cœur, elle avait toujours su que son fils avait raison, qu'il l'avait sauvé, qu'il l'avait débarrassé de l'homme qui aurait fini par la tuer. J'étais journaliste. Elle m'a d'abord demandé de chercher ton adresse, de chercher où tu habitais, juste pour savoir. Quand je lui ai montré le premier article, trois lignes qui parlaient d'un de tes exploits, avait arrêté un conducteur en excès de vitesse, je crois. J'ai compris à quel point elle t'admirait. J'ai créé une alerte à ton nom sur Google. Et pendant des années, je lui ai imprimé les articles qui parlaient de toi. Tous les mercredis, au marché, elle me demandait s'il y en avait un nouveau. Tu étais son unique univers, son héros, sa lumière. Valéry continue de ramasser les entrefilets, tête baissée pour que Madou ne voie pas ses larmes couler. Pourquoi est-elle si difficile d'afficher sa fierté? Madou a l'élégance de détourner les yeux, de se pencher sur la corbeille de fruits, de voler une cerise au pays. Tu comprends pourquoi j'ai misé sur toi pendant cette enquête? Je savais que tu étais un bon flic. Le commandant lui offre un regard brillant de pluie, aux yeux de ma mère, tout au moins. Il reste un moment silencieux, à méditer sur l'objectivité d'une mère sur les talents de son fils unique, tout comme celle de courrier cauchois sur les exploits du policier le plus haut gradé du canton. Madou s'est approchée pour croquer une seconde cerise. Elle observe avec méfiance le bouquet d'oiseaux de paradis. « Je te dérange? Tu attends quelqu'un ?»« Oui. » Le regard de Madou s'assombrit. Tout éclat d'améthyste éteint. Elle a trop le sens de l'autodérision pour chercher à dissimuler sa désillusion. « Dommage. J'ai cru que les fleurs étaient pour moi. » Valérie hésite une une seconde, touché par la sincérité de sa déception. « Mes deux gosses, je dois aller les chercher à l'aéroport. » Les diamants mouvent. Des yeux de la journaliste se rallument aussitôt. Dans combien de temps ? 3h20. Parfait, parfait. Laisse tout ouvert. Bien. Le soleil se couche au large de la plage de Malandur, dans un lit d'or. Sur la ligne d'horizon, les alizés caressent les deux mamelons sombres des îles Pigeons. Valéric et Madou marchent côte à côte. Ils s'arrêtent aux premières vagues. Leurs deux ombres disparaissent, avalées par le sable noir. Le soleil, fuyant, gomme peu à peu le reste, comme si les deux silhouettes étaient dessinées au crayon. Ils effacent leurs pieds et leurs jambes d'abord, puis leurs mains qui pentent, bêtement, stupides, de ne pas oser se toucher. Leurs hanches, leur taille, leur poitrine. Le ciel vire de pourpre au noir. Les alizés soufflent sur une dernière braise, un dernier éclat de soleil entre ciel et mer. Leurs deux visages se rapprochent. La nuit leur coupe déjà le cou. Valéric trouve la force de plaisanter. La dernière phrase du condamné. Oh, on ne va pas s'embrasser ici. Dans ce décor de carte postale, comme dans le pire des pires clichés. Tais-toi. Leurs lèvres se joignent alors que le soleil disparaît. La nuit leur accorde une ultime seconde, le temps que leurs deux profils se fondent, avant de recouvrir la fin de l'histoire d'un pudique voile d'obscurité.